Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Aliénor d'Aquitaine, la jeune duchesse est devenue reine de France. Après le désastre de la deuxième croisade, elle divorce de son mari Louis VII et épouse le jeune Henri Plantagenet, l'un des plus grands seigneurs de France qui peut aussi prétendre à la couronne d'Angleterre. Épisode 2. Ne jamais renoncer au pouvoir. En 1152, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri Plantagenet a mis les rois de France et d'Angleterre en émoi. Ils se sentent tous les deux menacés par ce couple d'ambitieux au territoire aussi grand que les leurs. Louis VII, côté français, et Étienne, côté anglais, se coalisent et réunissent autour d'eux plusieurs de leurs vassaux pour attaquer l'Aquitaine et la Normandie. Pendant qu'Aliénor défend son fief, Henri Plantagenet remporte des victoires qu'il célèbre par des pillages sur le domaine royal de France. Momentanément affaibli, le roi de France se retire du conflit. C'était inattendu, mais ça tombe à pic. Puisque c'est la guerre, Henri Plantagenet veut aller jusqu'au bout. Son véritable ennemi, c'est son oncle. C'est contre lui qu'il doit se battre s'il veut réunir la Normandie et l'Angleterre et récupérer la couronne. L'époux d'Aliénor reçoit en secret le soutien des barons anglais fatigués par ce qu'ils considèrent comme une guerre civile. Le 6 novembre 1153, Henri Plantagenet et Étienne signent le traité de Wallingford. Selon ce traité, Henri devient le seul héritier de la couronne d'Angleterre. Il deviendra officiellement roi à la mort de son oncle. Guillaume, le fils d'Étienne, est donc tenu de renoncer au pouvoir et il prêtera allégeance à son cousin quand celui-ci montera sur le trône. Si vous voulez mon avis, Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet ont dû célébrer la victoire. Il n'y a plus qu'à être patient. Et en plus, l'attente n'est pas longue. Étienne meurt 10 mois après la signature du traité. Henri monte sur le trône d'Angleterre sans rencontrer la moindre opposition. Il devient Henri II d'Angleterre. Le 19 décembre 1154, Aliénor est couronnée reine à côté de son mari en la cathédrale de Westminster. C'est la deuxième fois qu'elle porte une couronne de reine. Deux couronnes dans deux pays différents. Quel destin pour une femme du Moyen-Âge. Arrêtons-nous une petite minute, si vous voulez bien. Si on met bout à bout les fiefs du couple, on obtient un territoire qui va des frontières de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. En 1166, Henri II fait même la conquête du duché de Bretagne. On commence à parler d'Empire Plantagenet. Le domaine du roi de France est 2 fois plus petit que celui-ci. Mais en tant que duc et duchesse de Normandie et d'Aquitaine, Henri et Aliénor, bien que roi et reine d'Angleterre, sont aussi les vassaux du roi Louis VII. Évidemment, comme les deux rois veulent agrandir leur territoire, leur rivalité va engendrer des conflits incessants. C'est cette rivalité qui va former le terreau de la future guerre de 100 ans entre le XIVe et le XVe siècle. Mais revenons, si vous le voulez bien, en Angleterre, où Aliénor est très fière de sa deuxième couronne de reine. À cette époque, Aliénor et Henri sont fusionnels. La reine admire son époux et le roi sait qu'il peut compter sur le soutien de sa dame. Cette belle entente se concrétise par la naissance de 8 enfants en 13 ans, 5 garçons et 3 filles. Parmi ses fils, il y en a 2 que vous connaissez bien grâce à Robin des Bois. C'est Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Mais cette belle entente se fissure avec le temps. Plus il vieillit, moins Henri a besoin de sa femme pour l'aider à prendre des décisions. J'aime autant vous dire qu'Aliénor n'apprécie pas beaucoup d'être écartée du pouvoir. Surtout que son mari lui est infidèle et qu'il commence à avoir beaucoup trop d'enfants illégitimes. À l'époque, ça n'a rien de très surprenant. Ce qui énerve Aliénor, c'est que ces bâtards, comme on le dit à l'époque, pourraient concurrencer ses fils légitimes. Elle s'efforce donc de leur obtenir des titres et des charges assez gratifiants pour les contenter et les dissuader de revendiquer la couronne. Elle aurait, par exemple, poussé l'un de ses fils illégitimes dans les ordres et lui aurait obtenu l'archevêché d'York. À cette époque, quand on fait carrière dans le spirituel, on ne porte pas de couronne. C'est très fin de la part d'Aliénor. Elle tisse ainsi des réseaux qui bénéficieront plus tard à ses fils. De son côté, Henri II donne aussi des fonctions à ses garçons. C'est essentiel pour essayer de maintenir la cohésion d'un empire territorial qui n'a aucune unité culturelle. En 1170, il fait de Richard, alors âgé de 13 ans, le duc d'Aquitaine. Comme il est jeune, c'est Aliénor qui exerce le pouvoir sur son fief familial. Elle a presque 50 ans quand elle retrouve son château de Poitiers. C'est là qu'elle s'apprête à vivre quelques années plus légères. Aliénor d'Aquitaine est une femme éduquée et elle ne perd pas de vue qu'une grande reine est une protectrice des arts. Elle remplit sa cour de troubadours et d'auteurs. Certains diront qu'elle a même une liaison avec l'un de ses poètes. En tant qu'historienne, je me dois d'être prudente avec ces histoires. D'une part, c'est une méthode vieille comme le monde pour dénigrer les femmes de pouvoir. D'autre part, c'est contraire à l'esprit de l'amour courtois de l'époque qui privilégie la séduction et la délicatesse à la consommation de la chair. Il faut rappeler que les gens du Moyen-Âge ne voient pas le monde comme nous et que même leur rapport au désir est conditionné par leur mode de pensée. Dans la cour d'Aliénor, il y a aussi Chrétien de Troyes. C'est à lui qu'on doit la popularité de personnages comme Lancelot, Perceval et les autres chevaliers de la Table Ronde. Outre la vie littéraire, Aliénor finance aussi la construction de monuments comme la nouvelle cathédrale de Poitiers. Malgré toutes ses activités, Aliénor s'ennuie du pouvoir. Pour en retrouver, elle va imaginer un nouveau scénario. Elle va monter ses fils contre leur père, et ça, avec le soutien de son ex-mari, le roi Louis VII. En 1173, elle persuade ses trois aînés, Henri, Richard et Geoffroy, que leur père ne les laissera jamais régner. Toute la famille se livre bataille. Richard est celui qui s'oppose le plus longtemps à son père, mais finalement, en 1174, il lui prête à nouveau allégeance. Aliénor, qui est l'instigatrice de ces conflits, se retrouve séquestrée par son propre mari dans l'un de ses châteaux. Elle fait une tentative d'évasion rocambolesque. Elle s'habille en homme, se sauve par la fenêtre en descendant le long d'une corde en drap nouée et elle se fait rattraper par les soldats de son mari alors qu'elle pensait trouver refuge à la cour de Louis VII. Résultat, elle paye le prix de ses complots familiaux. Elle est retenue pendant 15 ans comme prisonnière par son époux. Sa libération arrive après son veuvage. Henri II meurt en 1189. Aliénor a environ 67 ans. Son fils préféré, Richard, monte sur le trône d'Angleterre. Il décide aussitôt de partir pour la troisième croisade et il part avec le nouveau roi de France, Philippe Auguste. C'est le fils de Louis VII qui a succédé à son père 9 ans plus tôt. Comme ça, aucun des deux rois n'attaquera le royaume de l'autre en son absence. Richard a laissé la régence de l'Angleterre à des seigneurs en qui il a toute confiance. Mais son frère, le prince Jean sans Terre, va en profiter pour tenter de lui ravir le trône. Aliénor est obligée d'intervenir militairement avec ses vassaux pour empêcher ce fils ingrat de se rebeller contre son fils préféré. Mais un autre événement va bientôt l'occuper. Alors qu'il rentre de croisade en 1192, Richard Cœur de Lion est fait prisonnier près de Vienne par le duc d'Autriche, Léopold V. Le roi d'Angleterre est ensuite livré à l'empereur du Saint-Empire, Henri VI. Pour le relâcher, l'empereur réclame 150 000 marques d'argent. C'est l'équivalent de 2 années de recettes du royaume d'Angleterre. C'est Aliénor en personne qui va se charger de récolter les 2/3 de cette somme et de l'acheminer vers le Saint-Empire pour faire libérer son fils. À 70 ans, la duchesse d'Aquitaine a toujours une santé de fer et participer à la vie politique de l'Europe la maintient manifestement en forme. Cependant, entre deux péripéties, elle a besoin de repos. Elle a pris l'habitude de se retirer à l'abbaye de Fontevraud, dans les Pays de la Loire. Régulièrement, elle quitte la quiétude de ce lieu saint pour visiter ses vassaux et s'assurer de leur fidélité. Elle est très âgée maintenant et pour s'assurer que l'Angleterre et la France cesseront de se faire la guerre, elle veut organiser une alliance entre les deux royaumes. Elle veut fiancer une de ses petites filles à l'héritier de Philippe Auguste. Avec l'assentiment du roi de France, elle se rend à la cour de sa fille mariée avec le roi de Castille. Après avoir franchi les Pyrénées en plein hiver, elle y rencontre ses deux petites filles âgées de 14 et de 12 ans, Urac et Blanche. La logique voudrait qu'elle choisisse l'aînée pour cette union dont le sort de l'Europe dépend. Mais Aliénor apprécie la vivacité de Blanche. L'adolescente est très pieuse et dotée d'un fort caractère. La duchesse se reconnaît sans doute un peu dans sa petite fille. Et c'est Blanche qu'elle ramène avec elle en France. Le 23 mai 1200, la duchesse regarde sa protégée épouser le futur Louis VIII avec satisfaction. Après ce dernier acte politique, Aliénor d'Aquitaine se retire à Fontevraud où elle meurt en 1204 après avoir vu plusieurs conflits armés déchirer encore sa famille. Elle aura pris soin, avant de mourir, de faire de ce lieu la nécropole royale des Plantagenêts. Son gisant, la représentation d'elle-même sur sa tombe, la montre couchée sur un lit, tenant entre ses mains un livre de prière. Elle laisse d'elle à la postérité l'image d'une reine raffinée et lettrée. Mais ce n'est pas tout. Son sang continue longtemps à irriguer les veines des rois d'Angleterre et des rois de France. En unissant Blanche de Castille à l'héritier de la couronne de France, elle a donné au royaume une grande reine qui saura assurer la régence pendant que son fils, Saint-Louis, sera en croisade. Aliénor est la preuve éclatante que les femmes de tempérament savaient se faire une place sur la scène politique au Moyen-Âge. Il faut un sacré panache pour qu'une duchesse devienne deux fois reine. C'est la fin de ce récit consacré à Aliénor d'Aquitaine. Je vous remercie de votre fidélité au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Romain Vintillas. Et quant à moi, la plume et la voix d'au cœur de l'histoire, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.